fils de Dieu ou fils de l'homme. Ce message qui suit est la traduction d'un sermon donné par le pasteur Chuck Smith de Calvary Chapel Costa Mesa en Californie. Le pasteur Chuck nous fait remarquer que le livre du prophète Daniel, qui faisait partie de l'Ancien Testament, a été traduit en grec entre l'an 285 et l'an 270 avant Jésus-Christ. L'authenticité du livre de Daniel est la mieux établie parmi tous les livres de la Bible, mais cette traduction historique dite des Septante établit de façon irréfutable que le livre existait bien avant les événements qu'il prédit. Bien avant, cette traduction donc a été faite bien avant les événements en question. Fils de Dieu ou fils de l'homme. Une chose que j'admire chez Jésus-Christ, c'est qu'il ne mâchait jamais ses mots. C'était un radical. Et pour cette raison, il forçait les gens à prendre position. Une chose est sûre avec une personne radicale, c'est que l'on ne peut pas rester neutre à son sujet. Un radical vous force à prendre position. Qu'il ait raison ou tort, il vous force à vous décider vis-à-vis d'eux. Jésus était radical, il ne vous laissait pas l'option de ne pas vous mouiller. Il y a beaucoup de gens pour qui être assis entre deux chaises, ne pas se mouiller, est un style de vie. Ceux qui disent « on va attendre de voir de quel côté les choses vont aller », il sera toujours temps de prendre le train en marche. Mais Jésus n'a jamais laissé les gens prendre une position de neutralité à son égard. En fait, il a même dit « si vous n'êtes pas pour moi, vous êtes contre moi. » Vous ne pouvez pas rester neutre. Vous ne pouvez pas l'ignorer. Il ne vous laisse pas cette option. Il vous force à prendre une décision en ce qui le concerne. Un jour que Jésus parlait aux scribes, il leur demanda « Que pensez-vous du Christ ? De qui est-il le Fils ?» Il leur faisait vraiment une question simple et pratique que tout le monde peut comprendre. De qui donc Jésus-Christ est-il le Fils ? Certains diront, eh bien, Marie et Joseph se sont fait prendre alors qu'ils couchaient ensemble, ils ont donc inventé une histoire. Ou alors un jeune homme de Nazareth est sorti avec Marie et elle a inventé une histoire en demandant à Joseph de couvrir toute l'affaire. Ou alors il était vraiment le Fils de Dieu. Que pensez-vous du Christ ? De qui est-il le Fils ? Maintenant, s'il n'est que le fils de Joseph ou d'un autre jeune homme inconnu de Nazareth, alors nous ferions aussi bien de refermer la Bible et de rentrer à la maison. Se rassembler, adorer Dieu ensemble, construire des églises, tout cela ne rime à rien. Tout cela n'est qu'une vaste comédie, et tous les gens qui au cours des siècles ont cru à Christ ont en fait été trompés. Tous les hôpitaux, toutes les écoles qui ont été bâties au nom du christianisme ne font que participer à un grand mensonge s'il n'était que le fils de l'homme, fils de Joseph ou d'un autre inconnu. Mais s'il est le fils de Dieu, alors vous feriez mieux de prêter l'attention à ce qu'il avait à dire, parce que votre vie en dépend. Que pensez-vous du Christ ? De qui est-il le fils ? Vous savez, il y a beaucoup de gens qui essayent de dire à propos de Jésus, « Eh bien, c'était un grand homme » ou « c'était un grand enseignant ». C'était un merveilleux philosophe. Pas du tout. S'il n'était pas le fils de Dieu, alors c'est le plus grand escroc qui ait jamais vécu sur la terre. Il est le plus grand menteur, le plus grand charlatan qui ait jamais existé. Vous ne pouvez pas simplement dire « Oh, c'était un homme bien, il nous a appris beaucoup de bonnes choses. » Parce que s'il n'était pas le fils de Dieu, alors ce qu'il avait à dire n'a aucune valeur. Et plutôt que de citer ses paroles, nous devrions parler de lui en sifflant et en nous moquant de lui. Vous ne pouvez pas simplement mettre Jésus sur un beau piédestal en disant « C'était vraiment, ce n'était qu'un grand homme. » Que pensez-vous du Christ ? De qui est-il le Fils ? Que vous croyez ou non qu'il soit le Fils de Dieu, vous devez de toute façon et en toute honnêteté reconnaître qu'il a davantage changé le cours de l'histoire humaine que toute autre personne qui ait jamais vécu. Citez-moi une seule personne historique qui ait davantage changé l'histoire et le cours des événements de l'humanité. Si vous écrivez un chèque aujourd'hui, vous indiquez 8-12-2003. 2003, pourquoi ? 2003 par rapport à quoi ? 2000 et 3 ans depuis qu'il est né. Il a en fait tellement changé l'histoire de l'humanité que même aujourd'hui, nous datons nos calendriers en fonction du jour de sa naissance. Donc que vous croyiez ou non qu'il soit le Fils de Dieu, vous devez au moins reconnaître qu'il a plus influencé l'histoire de l'humanité que tout autre homme qui ait jamais vécu. Que pensez-vous du Christ ? De qui est-il le Fils ? Vous voyez bien que cela se réduit à votre décision. Vous devez porter un jugement personnel le concernant. Oh, dites-vous, ma mère pense qu'il est le Fils de Dieu. Ça ne le fera pas pour vous, comme on dit. Que pensez-vous du Christ ? Que pensez-vous ? C'est une décision personnelle que chacun de vous doit prendre concernant Jésus-Christ. Non seulement vous devez prendre cette décision, mais vous l'avez déjà prise. Que pensez-vous du Christ ? De qui est-il le Fils ? Que pensez-vous du Christ ? Que pensez-vous de lui, Fils de Dieu, Fils de l'homme ? Non seulement il a fait plus que tout autre homme pour changer le cours des événements de l'histoire de l'humanité, mais jamais personne n'est venu dans le monde précédé d'autant de prédictions. Pendant les siècles qui ont précédé sa naissance, des hommes ont parlé de lui dans leurs écrits. Des hommes ont décrit les événements et les détails de sa vie. Ils nous ont dit où il allait naître, ils nous ont dit comment il allait vivre, ils nous ont dit comment il allait mourir, avec qui il allait être mis à mort, ils nous ont dit où il allait être enterré. Et événement après événement, et détail après détail, ont été donnés sur la vie de cet homme avant même qu'il ne soit né. Personne n'a jamais eu autant de choses écrites à son sujet avant d'être né. Personne n'a reçu autant de publicité à l'avance que Jésus-Christ. Et c'est cette publicité à l'avance qui nous intéresse ce soir. Parce que vraiment, quelles sont les probabilités que quelqu'un arrivant par hasard sur la scène de l'histoire puisse accomplir toutes les prophéties que Jésus a accomplies, à savoir quand il est né, quand il a vécu, quand il est mort et quand il a été ressuscité ? Quelles sont les probabilités ? Une chose intéressante quand on s'occupe de prophéties, c'est qu'on peut mesurer ces prophéties par une méthode scientifique, mathématique, qui s'appelle la loi des probabilités composées. Disons par exemple que je prédise que nous allons avoir un tremblement de terre en Californie. Cela ne fait pas de moi un prophète, parce qu'un de ces jours, sans aucun doute, nous allons avoir un tremblement de terre en Californie, si les choses continuent en l'état. La Californie a beaucoup de failles sismiques actives et tout le monde affirme que nous allons avoir un tremblement de terre. Donc ça ne fait pas de moi un prophète. Mes prédictions vont probablement être correctes. Mais si je dis, nous allons avoir un tremblement de terre en Californie le 12 mars prochain, alors je réduis l'éventail des possibilités, je diminue les probabilités, les chances que ma prédiction vienne à se réaliser ont nettement diminué. Si je dis nous allons avoir un tremblement de terre en Californie le 12 mars prochain et il mesurera 7.2 sur l'échelle de Richter, alors j'augmente d'un seul coup les chances pour que ma prophétie ne se réalise pas. Si je précise, ce tremblement de terre aura lieu à 2h de l'après-midi le 12 mars, il mesurera 7.2 sur l'échelle de Richter et l'épicentre sera à Newport Beach, j'augmente d'autant les chances pour que cette prophétie ne se réalise pas. Et si j'ajoute ce tremblement de terre fera 7280 victimes, alors vous réalisez que j'augmente encore les chances que ma prophétie ne se réalise pas et les chances de montrer que je suis un faux prophète augmentent. Chaque fois que j'ajoute quelque chose, les chances que la prophétie se réalise diminuent de plus en plus. Or, il y a dans l'Ancien Testament plus de 300 prophéties concernant Jésus-Christ, son lieu de naissance, sa vie, son ministère et des détails de sa vie. Plus de 300 prophéties qui se sont complètement et exactement réalisées. Quelles sont les chances que 300 prophéties se réalisent par accident ? Voyons maintenant une autre façon d'illustrer la loi scientifique des probabilités composées. Disons par exemple qu'un homme sur 10 est chauve. La loi des moyennes risque de vous rattraper. Nota bene, Chuck Smith déclare cela car il est lui-même chauve. En moyenne, combien d'hommes pris au hasard faudrait-il aligner contre un mur pour espérer en trouver un, qui soit chauve ? Les probabilités nous disent que si nous alignons 10 hommes pris au hasard et que si en moyenne un homme sur 10 est chauve, nous devrions avoir un homme chauve dans notre groupe. Maintenant, supposons qu'en moyenne, un homme sur 10 est borgne, aveugle de l'œil droit. Combien d'hommes pris au hasard faut-il aligner contre le mur pour trouver parmi eux un homme qui soit chauve et aveugle de l'œil droit ? D'après la loi des moyennes, il nous faudra aligner 100 hommes contre le mur. De la centaine d'hommes ainsi alignés, vous devriez pouvoir tirer 10 hommes chauves, et dans ces 10 hommes, vous devriez pouvoir en tirer un qui soit aveugle de l'œil droit. Maintenant, disons qu'en moyenne, un homme sur 10 n'a pas de pouce gauche. Combien d'hommes pris au hasard faut-il aligner contre le mur pour trouver parmi eux un chauve aveugle de l'œil droit à qui il manque le pouce de la main gauche ? Théoriquement, nous avons besoin de 1000 hommes pris au hasard. De ces 1000 hommes pris au hasard, nous pourrions obtenir la centaine de chauves. De cette centaine de chauves, nous pourrions obtenir la dizaine d'hommes qui n'ont pas de pouce gauche, et de ces 10 hommes qui n'ont pas de pouce gauche, nous pourrions obtenir celui qui est aussi aveugle de l'œil droit, et ainsi nous avons trouvé un homme qui remplit les 3 conditions. Il devient rapidement évident que pour chaque condition supplémentaire imposée, il faut multiplier le nombre d'hommes pour pouvoir trouver une personne qui réalise l'ensemble des conditions par un facteur correspondant à la probabilité pour que la dernière condition se réalise. Il est donc possible de prendre des prophéties concernant Jésus-Christ, de déterminer les chances pour qu'elles se réalisent ensemble au hasard, et de déterminer ainsi les chances qu'il soit arrivé sur terre par hasard, et ait accidentellement réalisé toutes ces prophéties. Une autre façon de poser le problème est de se demander combien d'hommes il vous faudrait réunir pour qu'il y en ait un parmi eux qui remplisse toutes les stipulations de ces prophéties. Voyons cela ensemble. Dans le 5e chapitre du livre du prophète Michée, le verset 2 déclare « Et toi, Bethléem Ephrata, toi qui es petite parmi les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au lointain passé, au jour d'éternité. » La première prophétie que nous voulons examiner est celle de son lieu de naissance, parce qu'elle élimine d'entrée la plupart des gens. Quelles sont en effet les chances pour qu'un individu pris au hasard naisse dans la cité de Bethléem ? Combien d'entre vous ici présents ce soir sont-ils nés à Bethléem ? Probablement personne. Nous ne sommes pas assez nombreux. Mais comment déterminer la probabilité pour qu'une personne naisse à Bethléem? La meilleure façon, c'est sans doute de prendre la population moyenne de Bethléem et de la rapporter à la population mondiale depuis l'époque de la prophétie. Du mieux qu'on puisse en juger d'après les archives en notre possession, la population moyenne de Bethléem depuis l'époque de la prophétie de Michée jusqu'à présent a été de moins de 7100 habitants. Ce n'est qu'un petit village. Il grandit maintenant, mais depuis cette époque, la population moyenne était moins de 7100 habitants et la population mondiale était de moins de 200 millions d'habitants. Le quotient de 7100 divisé par 200 millions est le même que 1 divisé par 280 000. Il n'y a donc qu'une chance sur 280 000 qu'une personne prise au hasard sur la Terre dise « Oui, je suis bien né à Bethléem ». Par ailleurs, la Bible dit qu'un homme allait le précéder. Un précurseur qui allait préparer son chemin. Une voix crie dans le désert, « Ouvrez le chemin, nivelez dans la steppe une route pour notre Dieu », disait le prophète Ésaïe dans Ésaïe 43. Combien d'hommes connaissez-vous dans l'histoire qui ont eu un précurseur, un homme venant avant eux pour préparer leur chemin? Pas beaucoup, disons mieux 1 sur 1000, mais soyons généreux et disons 1 sur 100. Il est d'autre part écrit qu'il ferait son entrée triomphale sur un âne. Zacharie 9:9 déclare « Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Lance des clameurs, fille de Jérusalem. Voici ton roi, il vient à toi. Il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, sur un petit âne, le petit d'une ânesse. » Combien de rois connaissez-vous dans l'histoire qui ont fait leur entrée triomphale sur des ânes ? La plupart du temps, les rois ont fait leur entrée triomphale dans des chars ou sur des étalons blancs, quelque chose de noble de ce genre. Pas souvent sur des ânes, j'en suis sûr. Mais encore une fois, soyons généreux et disons que ça arrive dans 1 cas sur 100. Il est aussi annoncé qu'il serait trahi par un ami. Psaume 41:10 écrit, dit « Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. » La plupart des gens sont trahis par leurs ennemis et non pas par leurs amis. De plus, il est dit que l'ami qui le trahirait pour 30 pièces d'argent. Zacharie 11:12 déclare : Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon ne le faites pas. Ils pesèrent pour mon salaire 30 pièces d'argent. Vraiment. Combien d'hommes connaissez-vous dans l'histoire qui ont été trahis par un ami pour 30 pièces d'argent ? Puis il est dit que l'argent serait jeté dans la terre dans la maison du Seigneur et qu'il servirait à l'achat du champ d'un potier. Zacharie 11:13. L'Éternel me dit : Jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Je pris les 30 pièces d'argent et je les jetai dans la maison de l'Éternel pour le potier. Combien d'hommes connaissez-vous dans l'histoire qui ont été trahis par un ami pour 30 pièces d'argent qui ont été jetées dans la maison de l'Éternel et utilisées pour acheter le champ d'un potier ? Voyez que chaque stipulation ajoutée réduit les probabilités. Il y a plusieurs années de cela, une classe de sciences du collège de Pasadena décida de déterminer les probabilités de certaines prophéties de l'Ancien Testament. Ils se demandèrent quelles étaient les chances pour que 8 prophéties particulières s'accomplissent par hasard. Autrement dit, combien d'hommes faudrait-il rassembler pour en trouver un qui remplisse par hasard toutes les conditions de ces 8 prophéties ? En utilisant une approche conservatrice, c'est-à-dire en augmentant les chances ou probabilités de chaque prophétie, ils ont trouvé qu'il y avait une chance sur 2,8 que multiplie 10 à la puissance 28, c'est-à-dire 10 suivi de 28 zéros. Pour simplifier un peu les choses, ils enlevèrent le facteur de 2,8, ce qui revient à multiplier les probabilités par à peu près 3, et conclurent qu'il y avait une chance sur 10 puissance 28. En estimant que la population mondiale au cours de l'histoire a été l'ordre de 88 milliards d'individus, soit près de 100 que multiplie 10 à la puissance 9, c'est-à-dire 10 à la puissance 11, ils ont divisé 10 puissance 28 par 10 puissance 11 pour trouver la probabilité que l'on trouve un homme qui remplisse par hasard les conditions de ces 8 prophéties. Cela donne 10 puissance 17. Autrement dit, il faudrait disposer de 10 puissance 17 hommes pour être sûr d'en trouver un qui remplisse ces conditions. C'est là votre facteur chance, une chance sur 10 suivie de 17 zéros. Pour mieux vous aider à saisir la magnitude de ce nombre, imaginez que vous disposiez d'autant de pièces de 2 euros. Vous pourriez en recouvrir tout le territoire français sur une épaisseur de 50 cm. Marquez l'une des pièces de croix rouge et remettez-la dans l'immense étendue de pièces en mélangeant bien. Bandez alors les yeux d'un homme et laissez-le circuler où il veut et choisir quand il veut une des pièces parmi ces 10 puissance 17 pièces. Cet homme a autant de chances de retrouver la pièce marquée d'une croix rouge que Jésus en a d'accomplir les 8 prophéties par hasard. Ils sont alors passés à 16 prophéties et en prenant des probabilités comparables pour les 8 prophéties ajoutées, ils sont arrivés à une chance sur 10 puissance 45. Le facteur populaire de population a déjà été pris en compte. Si vous aviez maintenant autant de pièces de 2 euros, vous pourriez façonner avec toutes ces pièces une gigantesque boule qui irait 30 fois plus loin que le Soleil. Or, le Soleil se trouve à 150 millions de kilomètres de la Terre, et vous pourriez faire une boule qui irait 30 fois plus loin que le Soleil. Imaginez maintenant que vous bandiez les yeux de notre homme et que vous lui donniez un équipement de plongée pour qu'il nage pendant des siècles avant de finalement saisir une de ces pièces et la montre à des observateurs. Cet homme a autant de chances de retrouver la pièce marquée d'une croix rouge que Jésus en a eu d'accomplir les 16 prophéties par hasard. Pour continuer et nous faire complètement apprécier l'incapacité de saisir mentalement les choses, ils ont alors considéré 48 prophéties. On arrive à une chance sur 10 à la puissance 157. C'est un nombre si vaste que nous n'arrivons même pas à le concevoir. 10 suivi de 157 zéros. Vous ne pourriez plus maintenant imaginer de faire une boule formée de cette quantité de pièces de 2 euros. L'univers n'y suffirait pas. Il n'est simplement pas assez grand. Il nous faut donc penser à utiliser la chose la plus petite qui soit pour construire notre balle. Cette plus petite chose qui soit que nous connaissions, encore que l'on ait découvert maintenant des particules encore plus petites, disons que c'est l'électron. C'est assez petit pour nous pour l'instant. Un électron mesure 1,16 × 10⁻⁹ mètres. C'est-à-dire que pour arriver à une distance d'un centimètre en alignant des électrons en file indienne, il vous en faudrait 1 divisé par 1, 16, que multiplie 10 à la puissance 17, c'est-à-dire près de 9 que multiplie 10 à la puissance 16. Si vous essayiez de les compter en comptant nuit et jour au rythme de 250 à la minute, il vous faudrait 700 millions d'années pour terminer. Un électron, c'est vraiment minuscule. Pouvez-vous maintenant imaginer combien d'électrons vous pourriez mettre dans un petit cube d'un centimètre de côté? Disons que ce cube est complètement rempli d'électrons qui forment un bloc compact. Vous pourriez mettre beaucoup d'électrons dans ce volume. Pour les compter tous, il vous faudrait 700 millions fois 700 millions fois 700 millions d'années, c'est-à-dire 343 que multiplie 10 à la puissance 24 d'années au rythme de 250 à la minute en comptant nuit et jour, année après année. Revenons maintenant à ce nombre de 10 puissance 157. Supposons que nous disposions d'autant d'électrons. Quelle est, selon vous, la taille de la boule que nous pourrions façonner avec tous ces électrons? La chose la plus grande que nous connaissions, c'est l'univers. On estime qu'il mesure 6 milliards d'années-lumière de rayon, soit une distance de 12 milliards d'années-lumière d'une extrémité à l'autre. Or, la lumière voyage à la vitesse de 300 000 km à la seconde. Donc le temps qu'il faut un rayon de lumière pour aller de la Terre à l'extrémité de l'univers est de 6 milliards d'années à la vitesse de 300 000 km à la seconde. Si vous pouviez enfourcher un rayon de lumière, vous pourriez effectuer 7 fois et demi le tour de la Terre en une seconde. Imaginez la vitesse. Ça, c'est vraiment se déplacer vite. Restez assis, bien calé sur votre rayon de lumière pendant 6 milliards d'années et vous arriveriez aux confins de l'espace. Si maintenant nous avons 10 que multiplie 150, à la puissance 157 d'électrons, nous pourrions faire une boule aussi vaste que l'univers dans lequel nous vivons. En fait, si nous pouvions organiser une chaîne de production et faire 500 de ces boules par minute, nous pourrions continuer à faire ces boules pour les 6 milliards d'années à venir. Nous pourrions répéter cela 10 à la puissance 10 fois, et il nous restera encore assez d'électrons, 10 puissance 32 d'électrons non utilisés. Faites maintenant une marque sur l'un de ces électrons, vous n'arrivez même pas à le voir. Les chances qu'en tirant au sort on tombe par hasard sur cet électron sont celles qu'un homme pris au hasard accomplisse 48 prophéties, 1 sur 10 à la puissance 157. Mais il n'y avait pas 48 prophéties, il y en a plus de 300. Quelqu'un va me dire, oui, mais les prophéties, c'est très vague. Après tout, on peut adapter la vie d'une personne à des prophéties vagues et dire, voyez, cette prophétie veut dire cela et ça s'applique parfaitement à la vie de cette personne. D'accord, il était dit, il naîtra à Bethléem. Dites-moi si c'est vague. S'il était né à Nazareth, ça n'aurait pas marché. Hébron, ça n'aurait pas marché. Ou à Jérusalem, ou à Bethel, ça n'aurait pas marché. Il serait déjà exclu. Pour moi, il n'y a rien de vague à naître à Bethléem. Ça me semble plutôt très précis. Il serait trahi pour 30 pièces d'argent. Ça n'est pas vague. Si vous aviez dit 29, Jésus aurait été éliminé. Il était dit qu'on lui percerait les mains et les pieds. Si on ne lui avait percé que les mains, Jésus serait éliminé. Ces prophéties ne sont réellement pas vagues, elles sont plutôt très précises. En fait, si vous voulez parler de prophéties précises, je peux vous parler de la prophétie la plus précise que je connaisse, celle du chapitre 9 du livre du prophète Daniel. Daniel avait compris en lisant le prophète Jérémie que les 70 années de captivité à Babylone étaient sur le point de s'achever. Le Seigneur avait prophétisé que la nation de Juda irait en captivité à Babylone. Jérémie avait dit « Vous resterez là-bas pendant 70 ans, puis Dieu vous ramènera dans votre pays. » Daniel, qui avait été emmené à Babylone par Nebuchadnezzar lors de sa première vague d'exil, était devenu un des responsables du gouvernement, maintenant que les Mèdes et les Perses avaient pris le pouvoir. Daniel avait réalisé, d'après les recueils des prophéties de Jérémie, que les 70 années de captivité étaient sur le point de s'achever. Comme il avait un poste d'autorité dans le gouvernement, il eut le sentiment que peut-être Dieu voulait qu'il fasse quelque chose pour aider les Juifs à être rapatriés chez eux. Daniel se mit donc à prier, jeûner et à demander à Dieu ce que Dieu voulait qu'il fasse. Et pendant qu'il cherchait ainsi la volonté de Dieu, l'ange Gabriel lui apparut et lui dit « Ô Daniel !» tu es bien-aimé de Dieu, et quand tu as commencé à prier et à rechercher Dieu, Dieu m'a envoyé pour te révéler des choses concernant la nation d'Israël. Prends donc connaissance et comprends. Depuis la promulgation de la parole disant de rétablir et de reconstruire Jérusalem jusqu'au prince Messie, Meshia Nagid en hébreu, il y a 7 années et 62 semaines. Une septaine représentait une période de 7 années. Il s'agit donc d'une période totale de 423 ans. Or, à l'époque où Daniel recueillait cette prophétie, la ville de Jérusalem était en ruine. Nebuzaradan, le général de Babylone, était allé avec ses troupes à Jérusalem pour y incendier le temple, tous les palais, et puis ils avaient systématiquement détruit toutes les murailles de Jérusalem, brûlant tout, ravageant complètement la ville. La ville n'était plus que désolation. Mais le Seigneur avait dit, entre l'annonce de l'ordre de rétablir et de reconstruire Jérusalem et la venue du prince Messie, il se passera 7 semaines et 62 semaines, c'est-à-dire 483 ans. Or, il vivait dans la région où l'on utilisait encore le calendrier babylonien, dont l'année comptait 360 jours. Donc, les 483 ans à 360 jours par an représentaient, en fait, 173 880 jours. Maintenant, si Dieu est précis, et si la parole de Dieu est précise, nous devrions pouvoir déterminer le jour exact où le Messie devait arriver. Parce qu'entre le jour où l'ordre de rétablir et reconstruire Jérusalem serait annoncé, et la venue du prince Messie, il devait y avoir 173 880 jours. Si Dieu savait vraiment de quoi il parlait. Des archéologues qui faisaient des fouilles dans le palais royal de Suse ont trouvé des éléments leur permettant de dire que cet ordre avait été dicté le premier jour du mois de Nissan du calendrier juif, dans la 20e année du roi Artaxerxès, c'est-à-dire 445 ans avant Jésus-Christ. Le premier jour du mois correspondait à la nouvelle lune. Les calculs astronomiques ont permis d'établir que la nouvelle lune est apparue le 14 mars cette année-là. C'est donc le 14 mars 445 avant Jésus-Christ que le roi Artaxerxès a donné l'ordre de rétablir et de reconstruire Jérusalem. Or, si l'on ajoute à cette date 173 880 jours, on arrive à la date du 6 avril 32 après Jésus-Christ. Quand Jésus a été crucifié, l'obscurité s'est faite sur tout le pays entre midi et 3 heures de l'après-midi. Et l'on suppose qu'une éclipse totale de soleil a causé ce phénomène local. Bien sûr, il est facile de déterminer où et quand les éclipses se sont produites dans l'histoire, car le mouvement du soleil et de la lune sont des constantes physiques. On peut donc vous dire, des années à l'avance, où les éclipses vont se produire, quand et quand ce seront des éclipses totales. De même, en remontant le temps, on peut faire la même chose dans l'histoire, et l'on sait qu'une éclipse totale de soleil s'est produite dans les jours qui ont suivi le 6 avril de midi à 3 heures de l'après-midi en Israël. Et à partir de l'éclipse totale de cette semaine-là, on remonte facilement au dimanche précédent, le dimanche avant la crucifixion de Jésus-Christ, le dimanche 6 avril 32 après Jésus-Christ. Il y a exactement 173 880 jours entre le 14 mars 445 avant Jésus-Christ et le 6 avril 32 après Jésus-Christ, quand on tient compte des années bissextiles. Or, le 6 avril 32 après Jésus-Christ, Jésus avait dit à ses disciples, « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un petit âne attaché. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit, « Pourquoi faites-vous cela ?» répondez, « Le Seigneur en a besoin. » Ils partirent donc pour le village et ils trouvèrent un petit âne attaché là, où le Seigneur le leur avait dit. Et comme ils le détachaient, un homme leur dit, « Que faites-vous là? Pourquoi détachez-vous ce petit âne ?» Ils répondirent, « Le Seigneur en a besoin. » Ils ramenèrent ainsi l'âne à Jésus à Béthanie. Jésus monta sur l'âne et se dirigea vers Jérusalem pendant que les disciples mettaient leurs vêtements par terre sur le chemin et agitaient des branches de palmiers. Ils commencèrent à citer le psaume 118, qui est un psaume messianique, annonçant le Messie, et s'écriaient « sauve maintenant, béni est celui qui vient au nom du Seigneur ». L'expression « sauve maintenant » se traduit en hébreu par « Hosanna ». Les disciples criaient donc « Hosanna, Hosanna, béni est celui qui vient au nom du Seigneur ». Pierre cite ce psaume en disant « Voici la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, Dieu en a fait la pierre d'angle, la pierre principale. » Hosanna, Hosanna, lisez le psaume 118 et la prophétie parlant de Jésus. C'est cette prophétie messianique que criaient les disciples. Quand les pharisiens entendirent ce que disaient les disciples, ils se tournèrent vers Jésus en disant « Maître, tu devrais reprendre tes disciples, ils blasphèment !» Jésus leur répondit « Laissez-moi vous dire une chose, si ses disciples se taisaient, les pierres elles-mêmes se mettraient à crier. » Jésus passa son chemin et entra dans Jérusalem comme Zacharie l'avait prédit. « Voici ton roi, il vient à toi. Il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Mais Jésus a été rejeté à Jérusalem, et regardant la cité de Jérusalem depuis le mont des Oliviers, il s'est mis à pleurer en disant « Ô Jérusalem, Jérusalem, si seulement tu connaissais toi aussi en ce jour ce qui te donnerait la paix. » C'était la première fois où Jésus permettait qu'on l'acclame publiquement comme étant le Messie. Plus tôt dans son ministère, quand il avait nourri 5000 personnes, elles avaient essayé par la force de se saisir de lui et de le faire roi. Mais son heure n'étant pas encore venue, il avait disparu. C'est ici la première fois qu'il se laissait acclamer en public, et c'est à ce moment-là qu'il a dit que si les gens se taisaient, les pierres elles-mêmes crieraient. Puis en pleurant, il a dit « Si seulement vous connaissiez vous aussi en ce jour ce qui vous donnerait la paix, mais maintenant cela est caché à vos yeux. » Revenons à la prophétie de Daniel. Que disait-il ? Le Messie sera retranché sans recevoir le royaume. C'est fou. Daniel a prédit le jour exact où le Messie viendrait, mais il a ensuite déclaré « Le Messie sera retranché sans recevoir son royaume et les Juifs finiraient par être dispersés. » Et ainsi, la prophétie de Daniel a été littéralement accomplie jusqu'à aujourd'hui. Pour moi, il n'y a vraiment rien de vague dans cette prophétie. Penses-tu du Christ ? De qui est-il le Fils ? Vous voyez donc qu'il y a un nombre impressionnant de preuves qui indiquent qu'il était vraiment le Fils de Dieu. En fait, les preuves sont écrasantes. D'autre part, Jésus faisait toujours des déclarations radicales, déclarations qui vous forçaient à prendre position. Marie et Marthe avaient un jour envoyé un message urgent à Jésus qui se trouvait sur les bords du Jourdain. Elles habitaient à Béthanie et il fallait 2 jours pour aller de Béthanie au Jourdain. Leur message disait « Reviens vite, celui que tu aimes est malade. » Ayant reçu le message, Jésus resta encore 2 jours au bord de la rivière, puis dit à ses disciples « Venez, allons voir Lazare à Béthanie. » Le temps qu'il ait fait le voyage de 2 jours jusqu'à Béthanie, Lazare était déjà mort et enterré depuis 4 jours. Marthe vint à sa rencontre à la sortie du village et lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » C'était une façon de lui dire « Hé, où étais-tu passé quand nous avions besoin de ton aide ? Pourquoi n'es-tu pas venu dès qu'on t'a appelé ? Tu n'as pas reçu le message qui disait « Urgent ? Qu'est-ce qui t'a pris tant de temps ? Seigneur, si seulement tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Vous pouvez entendre pointer l'amertume, mais Jésus a répondu « Marthe, ton frère ressuscitera. » « Oui, Seigneur, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit alors, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Que fait Jésus ? Il établit immédiatement une ligne de démarcation. Soit vous le croyez, soit vous ne le croyez pas. Vous voyez qu'immédiatement il sépare les gens en 2 groupes, en 2 catégories, ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. On ne peut pas rester assis entre 2 chaises. Il faut se décider. Soit vous croyez, soit vous ne croyez pas. C'est aussi simple et net que ça. Crois-tu cela ? Imaginez maintenant tout autre personnage historique faisant une telle déclaration. Imaginez par exemple que Néron déclare « Chers concitoyens romains, écoutez-moi bien, j'ai une annonce importante à vous faire. Je suis la résurrection et la vie, et celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Vous vous diriez à coup sûr, Néron est un malade mental, il est fou, il a perdu la raison. Que diriez-vous si Napoléon avait déclaré, je suis la résurrection et la vie, et celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Vous diriez, Napoléon est fou, c'est un mythomane, il a perdu l'esprit. Et si ce soir, me tenant devant vous, je disais, écoutez-moi mes amis, j'aimerais vous faire part d'une information importante, mais que ceci reste confidentiel, sachez que moi, je suis la résurrection et la vie, et celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Oui, vous vous diriez, mon Dieu, il manque une case à cet homme. Vraiment, si vous savez, vous le savez, si toute autre personne dans l'histoire avait fait cette déclaration, elle ne serait pas un problème pour vous. Vous la rejeteriez immédiatement en disant, c'est fou, c'est ridicule. Mais en raison de qui Jésus est, vous ne pouvez pas ignorer sa déclaration. En raison de toutes les prophéties qui l'ont précédé, vous ne pouvez pas l'écarter simplement. Vous ne pouvez pas dire, bof, peu importe, vous êtes mis au défi, soit c'est vrai, soit ce n'est pas vrai. Et quand il demande, crois-tu cela, immédiatement, il trace cette ligne de démarcation. Et soit vous croyez, soit vous ne croyez pas. Et soit vous avez la vie, soit vous ne l'avez pas. Aussi simple que ça. Pierre a dit, oh, combien je remercie Dieu qui nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Bien sûr, tout repose sur le fait que Jésus est ressuscité d'entre les morts et cela crée une espérance vivante. Pierre a ajouté, hey, ce n'est pas pour suivre des fables habilement conçues que nous avons déclaré la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, mais c'est parce que nous avons été témoins de cet événement. Que devons-nous donc penser de cette résurrection d'entre les morts? C'est très simple. Soit c'est vrai, soit ce n'est pas vrai. Soit Jésus est ressuscité, soit il ne l'est pas. S'il n'a pas été ressuscité des morts, alors nous devons imaginer que les disciples se sont réunis pour mettre au point cette histoire bien ficelée. Ils ont dit, d'accord les gars, nous devons jurer. Que chacun entaille son poignet pour faire couler un peu de sang, nous allons mélanger nos sangs et nous allons jurer par le sang. Frottons nos poignets. Personne, absolument personne ne vendra la mèche. Nous devons nous en tenir à cette version des faits, ce sera toujours la même, personne ne cédera. Ainsi donc, ils sortirent et commencèrent à dire, hey, Jésus est vivant, nous l'avons vu. Mais un par un, ces fanatiques qui disaient avoir vu Jésus ressuscité, ont été mis à mort de façon violente parce qu'ils disaient que Jésus était ressuscité et qu'il était vivant. Tout d'abord Jacques, ils l'ont attrapé, ils lui ont coupé la tête avec une épée parce qu'ils disaient que Jésus était ressuscité. Plus tard, ça a été le tour de Pierre qu'ils ont crucifié à l'envers parce qu'il disait que Jésus était ressuscité. Plus tard encore, ils ont coupé la tête de l'apôtre Paul parce qu'il disait lui aussi, « Moi, j'ai vu le Seigneur ressuscité. » Ils ont fait monter et descendre des escaliers à Jacques, l'autre Jacques, en le traînant par les pieds jusqu'à ce que son cerveau se fracasse contre les pavés parce qu'il avait dit, « J'ai vu le Seigneur ressuscité. » Ils attachèrent les pieds d'un autre disciple à un cheval, le firent traîner dans les rues pavées jusqu'à ce que sa mort s'ensuive. Et chacun de ses disciples, à l'exception de Jean, est ainsi mort d'une mort violente parce qu'ils déclaraient tous la même chose, « Jésus est ressuscité, nous l'avons vu. » Franchement, ne vous serait-il pas plus facile de soutenir votre position d'incrédulité si seulement l'un de ces hommes avait craqué sous la pression en disant « Eh, attendez, attendez !» Laissez-moi vous dire la vérité, ce n'était qu'une vaste supercherie, un coup monté. Si seulement un seul d'entre eux l'avait fait, vous seriez en mesure de défendre votre incrédulité. Vous pourriez dire d'accord pour les autres, mais regardez celui-là. Quand il a vu la mort en face, il a dit la vérité. Mais ces hommes étaient vraiment obstinés, têtus, pas un seul n'a avoué. Ceci constitue une preuve très puissante. Il est très intéressant de se souvenir que Satan avait confié à Dieu sa théorie de l'homme, qu'il avait élaborée à partir de ses observations. Satan disait, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Et c'est assez vrai en général. Quand la situation se réduit à une question de vie ou de mort, eh bien vous allez faire tout ce que vous pouvez pour sauver votre vie. Si ces hommes avaient pu sauver leur vie, ils auraient pu le faire en disant « C'est un mensonge, Jésus n'est pas ressuscité d'entre les morts. » S'ils avaient vraiment voulu sauver leur peau, il leur suffisait de dire cela. Mais pas un seul d'entre eux ne l'a fait. Tous sont allés à la mort en affirmant qu'ils avaient vu le Christ ressuscité. Ainsi Pierre a dit « Nous n'avons pas suivi des fables habilement conçues quand nous vous avons déclaré la résurrection de Jésus d'entre les morts, mais nous avons été vraiment témoins oculaires de sa gloire. Je l'ai vraiment vu de mes yeux. » Mais il ajoute quelque chose de très intéressant quand il dit « Mais nous avons la parole prophétique encore plus sûre, cette parole prophétique dont je parlais plus tôt, vraiment plus sûre que ce que je peux voir avec mes yeux et le fait qu'il est absolument impossible que Jésus ait accompli toutes ses prophéties par hasard. La parole prophétique est encore plus sûre. » Et donc, en fin de compte, nous revenons à la même conclusion. C'est à vous de juger, c'est à vous de décider. Que pensez-vous du Christ? De qui est-il le Fils? Le Fils de Dieu, le Fils d'un homme? Votre décision, votre conviction détermineront votre destinée éternelle. Avec toutes les preuves qui montrent qu'il est réellement le Fils de Dieu, il me semble terriblement insensé de croire de toute façon différente. Finalement, il y a le témoignage de la majorité des personnes présentes ici ce soir et des millions de personnes à travers le monde qui vous diront « Il est le Fils de Dieu, il est vivant aujourd'hui. J'ai fait l'expérience de sa puissance dans ma vie. » Comment expliquer les changements dramatiques qui interviennent dans la vie des gens s'il ne s'agit que d'une supercherie, si Jésus n'était qu'un imposteur, s'il n'était qu'un bâtard? Et cependant, c'est exactement ce que vous dites si ne vous croyez pas qu'il est le Fils de Dieu. Que pensez-vous de Christ? De qui est-il le Fils? S'il est vraiment le Fils de Dieu, alors ce soir il y a de l'espoir pour le monde. Nous pouvons nous attendre à un glorieux futur. Tout n'est pas vide, vain, noir, désespéré, mais un demain brillant arrive. Jésus nous l'a promis. S'il est le Fils de Dieu, alors sûrement vous devriez lui confier votre vie. Vous avez tout à y gagner, rien à y perdre. Si ce n'est votre vieille nature égoïste, corrompue, pécheresse, dont il est en fait agréable de se débarrasser. Voulez-vous prier avec moi? Nous te remercions, Père, pour l'abondance des preuves que tu nous as données concernant ton Fils Jésus-Christ, pour avoir parlé de lui tant d'années à l'avance, en nous précisant tous les détails, tous les faits qui nous ont libérés de tout doute concernant sa vérité, lorsqu'il est enfin venu sur terre. Puissions-nous ce soir ouvrir nos cœurs et nos vies pour recevoir la vérité et pour recevoir Jésus-Christ dans nos vies, comme notre Seigneur, comme notre Sauveur. Père, puisse ton Esprit Saint travailler maintenant dans chacun de nos cœurs. Amen.